une première journée dont je vais vous parler. Demain, le Père Marie-Alain nous présentera l'encyclique de Jean-Paul II, la première encyclique de Jean-Paul II, Redemptor Hominy, et donc plutôt un aspect des fruits de la rédemption. Et samedi, dimanche, le Père Philippe montrera plus un aspect de théologie scientifique sur la rédemption et de théologie mystique. Aujourd'hui, on va faire ce que j'espère qui ne sera pas trop un monstre, c'est-à-dire à la fois un regard de théologie biblique et de théologie de l'économie divine. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ces différents... s'est révélé progressivement et la théologie biblique le met en lumière et met en lumière toute la richesse et la complexité de cette révélation dans l'histoire d'Israël et ensuite dans le Nouveau Testament. Il y a une théologie qu'on peut prendre les deux regards sans, je pense, faire trop quelque chose de monstrueux, qui est connexe parce qu'elle regarde aussi le devenir et elle regarde la réalisation du dessein de salut de Dieu, du dessein divin de salut. Donc vous voyez que, évidemment, cette théologie d'économie divine est cruciale en ce qui concerne le thème de la rédemption puisque on tombe tout de suite sur le salut. Et puis je vous ai parlé donc d'une théologie scientifique où saint Thomas est le maître, qui s'efforce de mettre en lumière le contenu intelligible de la parole de Dieu vu comme enseignement. Dieu nous enseigne par sa parole et comme tout enseignement, la première qualité c'est l'intelligibilité. Voilà ce que va mettre en lumière la théologie scientifique, l'intelligibilité de la révélation. Et puis, c'est pas, la parole de Dieu n'est pas simplement un enseignement, elle est une parole d'amour. Et donc, c'est toute la dimension d'une théologie mystique qui regarde, comme tout ce qui concerne l'amour, avant tout les personnes. Donc, elle met en lumière la dimension d'amour du mystère divin tel qu'il se révèle et qu'il s'incarne à travers des personnes. Le Christ et la Vierge Marie en particulier. Bon. Ça, c'est un rappel, vous savez ça pour la plupart. Vous voyez que j'ai mis en premier la théologie biblique parce que la théologie naît de la lecture de la parole de Dieu, de la réception par l'intelligence humaine de la révélation. Alors, je voudrais relire avec vous pour qu'on ait la lumière sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Le texte du Concile dans Dei Verbum, qui est la constitution dogmatique sur la révélation. Vous avez la photocopie, hein. En principe. Le numéro 24, en bas de la page, qui montre le lien entre la théologie, donc l'effort que nous allons faire, et la lecture de la parole de Dieu. Ça va, tout le monde là? La théologie sacrée s'appuie sur la parole de Dieu écrite. Voilà. Notre effort de théologie, il est toujours... Il prend sa source dans une lecture de la parole de Dieu. Une lecture en Église. C'est pour ça que le Concile ajoute que cette parole de Dieu écrite est inséparable de la Sainte Tradition. Et ça, le Concile dit, c'est le fondement permanent de la théologie. Ça veut dire que ma théologie ne se construira que dans un va-et-vient constant avec la lecture priante de l'écriture, si vous voulez, et ça c'est très important pour notre vie de frères et de sœurs Saint-Jean, c'est que notre effort théologique s'inscrit dans une vie où la lectio divina, c'est-à-dire la lecture priante de la parole de Dieu, tient une place primordiale. Et ça, le Concile l'exprime merveilleusement. La théologie sacrée s'appuie sur la parole de Dieu écrite comme sur un fondement permanent. En elle, elle se fortifie, s'affermit et se rajeunit toujours. La théologie prend sa force, sa fermeté, sa solidité, sa vigueur, sa vitalité, quand vous vous ressourcez dans la parole de Dieu. C'est pour ça que pour le théologien, il est vital de connaître l'Écriture, de l'aimer, de s'y reposer. Et vous avez la fameuse phrase qui date des encycliques, qui remonte à l'encyclique de Léon XIII à la fin du XIXe siècle, sur Proventissimus Deus, que l'étude de la Sainte Écriture soit donc pour la sacrée théologie comme son âme. Voilà. Enfin, je voulais relire avec vous pour qu'on voit bien qu'on ne perd pas son temps quand on s'apesantit sur une lecture de la parole de Dieu. Parce qu'on va un peu s'apesantir, hein. Ça va être un peu matériel par un certain côté. Mais vous comprenez bien que si vous ne faites pas cet effort, votre théologie, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir une espèce de réflexion de plus en plus logique, où faute de vous ressourcer dans la parole de Dieu, vous discutez les opinions théologiques des autres théologiens, et ça devient une espèce de système clos qui se coupe de la révélation et qui donc n'est plus théologie. Le seul qui nous dit le mystère de Dieu, c'est Dieu lui-même et dans le Christ. Si vous vous quittez cette révélation de Dieu dans le Christ, à terme, vous ne faites plus de théologie, mais vous répétez des mots et des mots vides. Voilà. Alors, ça c'est pour expliquer pourquoi cette théologie biblique, elle est première. C'est le premier effort de la théologie, vous voyez, qui interagit avec sa lecture de la parole de Dieu. Tout de suite, ça donne une théologie biblique. Mais, c'est ce que je veux dire, je ne dis pas là que les autres parties de la théologie se coupent de la parole de Dieu. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Tout effort théologique s'enracine dans la lecture de la parole de Dieu. Alors, le second point de vue que je voudrais prendre, c'est le point de vue de l'économie divine. C'est-à-dire donc, l'économie divine, c'est la manière dont Dieu réalise dans le temps, dans le devenir, dans l'histoire, sa volonté, le salut des hommes. Et donc, je voudrais vous montrer comment la rédemption est au cœur de cette économie divine. Il n'y a pas d'autre centre de l'économie divine que le mystère de la rédemption. Donc, c'est ça la difficulté. Vous avez là une espèce de nœud. Il ne faut pas s'étonner de la complexité du thème. Alors, je voudrais lire avec vous un passage de l'Apocalypse qui, il me semble, met ça en lumière. Vous savez, c'est au début de l'Apocalypse, on connaît bien ce passage, où apparaît l'agneau immolé. L'agneau debout comme égorgé. Donc, c'est l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Au chapitre 5, les versets 6 et suivants. Nous sommes depuis le chapitre 4 dans la grande vision de Jean, qui a cette vision extatique. Et tout à coup, au verset 6, Jean voit au milieu du trône et des quatre vivants, et au milieu des vieillards, un agneau debout comme égorgé. Donc c'est la figure de l'agneau égorgé. On va voir que par cette vision de l'Apocalypse, la rédemption, qui est donc symbolisée par cet agneau égorgé, qui est le Christ, bien sûr. Le Christ debout, ressuscité et égorgé par la croix, par sa passion. On va voir que cette vision de l'Apocalypse donc montre comment des deux côtés, des deux aspects, sur les deux aspects fondamentaux de l'économie divine, elle nous montre comment la rédemption est au cœur. Le premier aspect fondamental dans l'économie divine, c'est la révélation elle-même. la révélation comme acte, comme fait et comme progression est le premier axe de l'économie divine. Dieu nous sauve en se révélant. Et dans cette révélation, c'est l'agneau debout, égorgé, qui est le sommet. Et alors là, vous l'avez parce que là, il y a un petit problème de traduction du grec. Mais cet agneau, il est au milieu du trône et des quatre vivants et au milieu des vieillards. Si vous vous reportez au chapitre précédent de l'Apocalypse, chapitre 4, au verset 2, vous voyez que le trône est celui de Dieu. Et la seule chose qu'on nous dit de ce trône, c'est qu'il y a quelqu'un d'assis. La première chose que voit Jean, « Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'un trône était placé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. » Ce n'est pas très explicite sur le mystère de Dieu, quand on vous dit qu'il y a un trône et quelqu'un d'assis dessus. Ça vous dit quelque chose, évidemment, mais vous voyez, ce n'est pas très révélateur. Et au chapitre 5, on vous présente au milieu du trône cet agneau égorgé debout. Pour vous faire comprendre que le seul accès que vous avez au mystère divin, c'est ce mystère de la révélation, de la rédemption, c'est ce mystère du Christ immolé, du Christ crucifié et glorifié. Alors, il y a un petit problème de traduction. On ne sait pas très bien si il faut traduire au milieu du trône et des quatre vivants ou entre le trône et les quatre vivants. Mais c'est la même chose. Vous voyez, c'est toujours cette place du Christ conjoint, on a envie de dire, au mystère divin, qui est le seul accès concret que nous ayons au mystère divin. Alors ça, vous l'avez dans Deo Verbum, pour montrer que le concile dit la même chose. Ce qu'on vous a photocopié au début, là, le numéro 2. Il a plu à Dieu, première phrase, il a plu à Dieu de se révéler en personne. La révélation, c'est donc ce que je vous disais, cet acte où Dieu se révèle lui-même. Et dernière phrase du paragraphe, quelle est la plénitude de cette révélation? Le Christ. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Donc, par ces mots de plénitude, on vous montre que du côté donc, de ce premier axe de l'économie divine, l'agneau immolé est sommé. Alors, il s'agit bien de l'agneau immolé, ce que vous avez au paragraphe 4. Au milieu du paragraphe. C'est donc lui, c'est le Christ, hein, qui par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même, par parole et œuvre, par signe et miracle, et plus particulièrement, en latin, le texte latin qui fait foi, c'est particulièrement, surtout, presertim, surtout par sa mort et par sa résurrection glorieuse d'entre les morts. Et c'est donc surtout par sa mort et par sa résurrection d'entre les morts que le Christ achève en la complétant la révélation. Donc vous voyez, ce que nous dit Deo Verbum, c'est que sommet de la révélation, le Christ. Et sommet de cette révélation dans le Christ, sa mort et sa résurrection, donc son mystère pascal. Et donc vous l'avez, ce que dit là Deo Verbum en termes plus intelligibles, vous l'avez en termes symboliques dans cette vision de l'Apocalypse, où l'agneau debout est au milieu du trône, et c'est celui que Jean voit. Alors, ça c'est le premier aspect, le premier axe de l'économie divine. Le second axe de l'économie divine, c'est tout ce qui concerne la constitution de l'Église. Et ça, on va le retrouver tout au long de la journée. C'est pour ça que la théologie de l'Église fait partie de la théologie de l'économie divine. Vous voyez, c'est une espèce de sous-marque. Or, de ce côté-là, qu'est-ce que nous montre l'Apocalypse? Elle va nous montrer comment toute la création, prise sous l'angle du gouvernement divin, c'est-à-dire de la manière dont Dieu dirige les choses dans sa création, toute cette création, tout ce gouvernement divin, converge vers la rédemption. Et y compris l'incarnation. L'incarnation qui rentre dans ce gouvernement divin, l'incarnation, le Christ qui prend chair et qui donc qui revêt une humanité sainte et qui par son humanité appartient à la création, il rentre dans, dans cette grande orientation vers le mystère de la rédemption. Alors ça, vous l'avez symbolisé par au verset 8 du chapitre 5 de l'Apocalypse. Les quatre vivants et les 24 vieillards tombèrent devant l'agneau. Ces 24 vieillards, ils symbolisent sans doute la manière dont l'homme est appelé à coopérer au gouvernement divin. Ils sont vieillards parce que les vieillards, c'est l'image sans doute de la sagesse, de ceux qui rentrent dans cette sagesse de la réalisation divine. Et puis les vivants, vous savez que pour le père Philippe, cela symbolise l'incarnation, le mystère de l'incarnation, en tant que Jésus se fait pour nous le vivant de vie humaine et de vie divine. Or, ce que vous voyez là, c'est que ces 24 vieillards et ces 4 vivants tombent devant l'agneau. Donc, vous voyez, il y a ce point de départ de l'économie divine quant à la constitution de l'Église, il se prend fondamentalement à la création. Cette création, elle culmine dans la création de l'homme. Premier récit, la création. Cet homme, par la révélation, premier axe, est associé à la manière dont Dieu va réaliser son plan de salut. C'est toute la place du médiateur, des prophètes par exemple, que nous allons retrouver aussi. Si vous voulez, ceci c'est peut-être la figure du vieillard. Et puis, arrive l'incarnation. C'est symbolisé par ces 4 vivants. Tout ceci, tout ce devenir, vous voyez, toutes ces interventions successives de Dieu, toutes ces initiatives de Dieu, le verset 8 de l'Apocalypse nous montre qu'elle trouve un sommet transcendant dans le mystère de l'agneau égorgé. Les vieillards et les vivants tombent devant l'agneau dans un geste d'adoration. Vous voyez, l'acte de tomber, on aura au verset 14, vous avez tombé et se prosterner. Se prosterner, c'est le terme technique pour l'acte d'adoration. Adorer en grec se dit par ce terme qui exprime donc le mouvement de prosternation. Et c'est très beau de voir que la vision de l'Apocalypse nous le donne comme symbole de cet achèvement de l'économie divine devant le mystère de la rédemption. Parce que l'adoration, c'est l'acte ultime de la créature. La création trouve son acmé, son point sublime, je ne sais pas comment dire, vous voyez, dans la rédemption, et s'est manifesté symboliquement par cet acte de prosternation. Vous voyez, on est dans l'ordre du gouvernement divin qui a commencé avec la création, mais il y a vraiment un seuil là. Il y a vraiment un sommet transcendant. Et vous le manifestez symboliquement par l'acte d'adoration. Les vivants et les vieillards se prosternent. Alors, évidemment, il y a là un sommet transcendant parce que par l'incarnation, c'est Dieu lui-même qui s'incarne. L'agneau est divin et ses actes, comme dit Denis l'aérobagite, le pseudo, ses actes sont théandriques, humano-divins. Donc il y a, dans le mystère de la rédemption, Dieu est impliqué personnellement. C'est le mystère propre de l'incarnation. Qui, donc évidemment, influe tout ce que fait sur la qualité de tout ce que fait le Christ. L'humanité du Christ est assumée personnellement par Dieu, et donc tout ce que fait cette humanité. Ce mystère, il s'agit bien du mystère de la rédemption. Et on le voit dans les versets 9-10. Il y a le chant, le cantique nouveau, qui est une allusion au cantique nouveau, au cantique de après la traversée de la mer Rouge. Et qu'est-ce que chantent les vivants et les vieillards ? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux parce que tu as été égorgé, caractéristique de l'agneau, et tu as acheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus et langues et peuples et nations. Et tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Et ce mystère de l'agneau égorgé dans l'économie divine, c'est le mystère de cette rédemption, de cette acquisition que fait l'agneau pour Dieu des hommes. Donc c'est pour ça que je vous disais constitution de l'Église. Ça, c'est l'Église, les versets 9-10. Le royaume et les prêtres, les hommes achetés de toutes nations, tribus et peuples, c'est l'Église. Vous avez le, si vous voulez, dans le mystère de la rédemption, vous avez l'acte du Christ comme agneau immolé et la naissance de son corps mystique, l'Église. Les deux sont inséparablement liés. Et vous avez ensuite, dans les versets suivants, une espèce d'orchestration, tout le reste de la création. Les anges, même les créatures matérielles, hein, toutes les créatures, verset 13, toutes les créatures qui sont au ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, tout cela rentre dans ce mouvement d'adoration et de louange. C'est-à-dire que pour bien manifester par cette orchestration liturgique, comment toute cette économie divine unit toute la création vers son sommet, le mystère de la rédemption. Vous voyez, il y a une espèce, si vous voulez, de vous avez des cercles concentriques. Si on veut schématiser. Mais en fait, ça marche pas très bien parce qu'il y a les anges qui sont un peu à part. Donc il y a l'agneau, il y a les anges, on va faire des chœurs. Il y a les créatures matérielles qui sont un peu plus loin. Il y a les vieillards. Puis il y a les vivants. Et puis derrière l'agneau, il y a Dieu. Vous voyez, c'est impossible à représenter sur un tableau. C'est plus astucieux la manière dont c'est fait dans l'Apocalypse. Donc c'est très beau, parce que vous voyez que vous avez la vision là d'une liturgie universelle. Vous regardez la liturgie dans l'économie divine, qu'on fait le Père Seigneur. Et cette liturgie, cette vision d'une grande liturgie, marque cette place centrale de l'agneau égorgé et rédempteur. Alors, ça vaut le coup de reprendre des textes du Concile, parce que le Concile, je crois que l'unité du Concile se prend du côté de l'économie divine. Donc tous les textes du Concile repose sur un regard d'économie divine. Alors prenez la seconde feuille qu'on vous a photocopiée, qui est la constitution sur la liturgie. Et on va retrouver cette manière dont l'économie divine se focalise sur le mystère de l'agneau avec cette dimension liturgique. Donc c'est le paragraphe 5 de Sacrosanctum Concilium. Donc il y a encore une fois sur la liturgie. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, le dessein de salut, hein, que l'on explore en économie divine, et parvienne à la connaissance de la vérité, qui jadis tant de fois et de tant de manières avait parlé à nos pères par les prophètes, première dimension de l'économie divine, la révélation. Lorsque vint la plénitude des temps. Voilà. Ça c'est le terme que le Concile emprunte à saint Paul dans l'Épître aux Galates, la plénitude des temps. Vous voyez, cette expression, elle est prégnante. La plénitude des temps, ça veut dire que du point de vue du déroulement du temps, du déroulement du devenir, du déroulement de l'économie divine, Il y a une plénitude qui est le moment de l'incarnation rédemptrice. Lorsque vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, car c'est son humanité, dans l'unité de la personne du Verbe, qui fut l'instrument de notre salut. Ce que je disais sur ce mystère de l'agneau, qui est un mystère proprement divin, parce que l'humanité du Christ est assumée par la personne du Verbe. Et ensuite, le dernier paragraphe, cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu. À quoi avaient préludé les grandes œuvres divines dans le peuple d'Ancien Testament? Donc, tout l'Ancien Testament figure, vous voyez, comme dans une... Prenez la figure d'une composition musicale. Vous avez des thèmes qui sont annoncés. Et puis tout à coup, grand mouvement musical où les thèmes sont développés. Eh bien, c'est l'analogue de ce qui se passe dans l'économie divine, telle que nous le présente le Concile. Vous avez des préludes, des préfigurations, mais le mouvement lui-même, symphonique, si vous voulez, culmine au moment où le Christ apparaît. Une image. Cette œuvre de la rédemption, le Christ Seigneur l'a accomplie principalement, donc vous retrouvez principalement, par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension. Mystère pascal par lequel en mourant il a détruit notre mort et en ressuscitant il a restauré la vie. Donc vous voyez que si vous lisez les textes du Concile, vous voyez très clairement cette insistance sur la place particulière de la rédemption, l'Apocalypse dit le mystère de l'agneau égorgé, au centre de l'économie divine. Alors, un petit nota bene. Cette liturgie de l'Apocalypse qui commémore la mort glorieuse du Christ, ça vous dit peut-être quelque chose? Nous vivons de quelque chose qui correspond exactement à cette liturgie, qui est une liturgie, la messe, l'Eucharistie. Pour employer des gros mots, cette liturgie que nous montre l'Apocalypse, où est glorifié le Christ dans son immolation, on dira que c'est l'antitype de quelque chose dont l'Eucharistie est le type. C'est-à-dire que l'Eucharistie est la manière pour nous qui sommes dans le temps de l'Église militante, de l'Église en devenir, de vivre de cette glorification éternelle de l'agneau égorgé, qui est une glorification de type liturgique. Alors, on peut pas l'imaginer, hein, mais on doit le dire. On ne peut pas imaginer la liturgie céleste. Ce sera mieux que ce qu'on imagine. Alors, si vous voulez, vous avez là... Si on veut un peu mettre les choses au clair. Vous avez donc dans l'économie divine un sommet qui est la croix. L'acte d'immolation de l'agneau. L'immolation du Christ. Son immolation volontaire. Cet acte, en tant qu'il est porté par l'amour divin, est éternel. Et c'est un acte glorieux. Donc vous avez, à partir de là, si vous voulez, une permanence éternelle de cette gloire de l'agneau égorgé. Ça, c'est le niveau propre où se situe l'Apocalypse. Notre manière à nous d'en vivre, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Plus exactement, le sacrement de l'Eucharistie rend présent cette gloire de l'agneau égorgé pour que nous en vivions. Ça, c'est le temps de l'Église, c'est notre temps. C'est un temps sacramentel. Hein, sacrement, le signe d'une réalité qui sanctifie, en tant qu'elle sanctifie. Cette réalité qui nous sanctifie, c'est l'agneau dans son immolation. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on montre qu'il peut faire sauter les seaux. Nous avons accès à ce qui est contenu dans le livre, c'est-à-dire l'accès à Dieu. Et puis, avant, il y a tout l'aspect des préfigurations. Il n'y a pas le sacrement avant, il y a les préfigurations, il n'y a pas le sacrement de l'Eucharistie. Voilà. Donc, vous voyez, ce qu'il faut essayer de comprendre quand on lit la parole de Dieu, et ce qu'on va essayer de faire de manière balbutiante aujourd'hui, c'est comment cette rédemption, comment la parole de Dieu montre que la rédemption est au cœur de l'économie divine. Voilà. Alors, si vous avez des questions, on les fera peut-être en début d'après-midi. Hein, pour éviter de tronçonner tout. Alors, je vous ai prévenu que ça serait un peu matériel. Donc, on va un peu regarder les mots. Le mot sur lequel on doit réfléchir, c'est le mot de rédemption lui-même. Là, j'essaye de rentrer donc, dans le vif du sujet en faisant une petite plongée dans l'étymologie et l'utilisation, surtout des mots, par le Nouveau Testament. Ce qui va nous permettre d'avoir une espèce de fresque sur l'utilisation dans le Nouveau Testament des mots liés à la rédemption. Donc, vous voyez, je quitte ce regard d'économie divine, qui est un regard un peu plus élevé, un peu plus enivrant, pour plonger dans une espèce d'exégèse tournant à la théologie biblique. Ce sera moins drôle. Entre parenthèses, les mots antitype et type, je ne les invente pas. Hein. C'est des mots de la Bible. Vous l'avez dans la première épître de Pierre pour le baptême et le déluge. Le baptême est le type et le déluge est l'antitype. Donc je ne fais que transposer par rapport à l'Eucharistie. Bon, le mot lui-même de rédemption. Puisque, hein, quand on a un sujet à traiter, on commence à réfléchir sur le mot. Le mot, il vient bien sûr pour nous du latin redemptio, qui vient lui-même du verbe redimo. Bon. Qu'est-ce que signifie redimo? Ça signifie racheter. Mais racheter dans quel sens? C'est en particulier racheter un captif. Vous dites ça pour les exemples du gaffio, on rachète quelqu'un qui a été emprisonné par les pirates, ou on rachète quelqu'un qui a été esclave. Et donc, tout de suite, par cet angle du rachat d'un captif, d'un esclave ou d'un prisonnier, vous avez le sens de délivrer. Donc, tout de suite, vous avez cette dualité qu'on va retrouver tout le temps. Un premier aspect pécuniaire, si vous voulez, on achète, on verse une somme. Et par cette somme, on libère, on délivre, on affranchit. Redemptio aussi, pour le latin, ça a le sens de effacer, de supprimer, on dirait, vous voyez, une faute. Vous voyez, comme quand vous dites à quelqu'un, tu te rachètes, parce que tu as fait une bêtise et là tu te rachètes, c'est le même sens en français. Mais voyez donc, le premier sens de ce mot latin, c'est racheter. À quoi correspond-il en grec, qui est tout de même la langue du Nouveau Testament? La Vulgate a traduit par redemptio ou par redimere un certain nombre de termes différents.
Le premier terme, c'est l'utrosis. Je vous épargne le grec. Ça, on l'a tout de suite dans le, ce que nous chantons à la messe. À la messe. Au Laude. Oui, au Laude. Le Benedictus. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple, opéré son rachat. C'est le terme l'utrosis. Donc, vous chanterez maintenant le Benedictus, vous penserez à votre session sur la rédemption. Qu'est-ce que veut dire l'utrosis? Ça veut dire le rachat. La rançon. La rédemption. Soit dit en passant, rançon n'est rien d'autre qu'en français que la contraction de rédemption. C'est en fait le même mot. Mais il y a le français qui a tout mâchouillé, alors ça donnait rançon. Et ensuite, à la Renaissance, on a repris le mot latin, ça donnait rédemption. Je vous signale que dans ce petit texte du Benedictus, quand, donc c'est Luc 1, 68. Parce que nous, on chante le Benedictus, le Magnificat, sans réfléchir. Et c'est des textes qui sont d'une richesse doctrinale immense. Alors, je m'arrête 3 secondes pour vous le faire sentir. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple, opéré son rachat. Donc vous voyez que tout de suite, vous avez la notion de délivrance du peuple. Ce qu'on disait sur l'économie divine, la constitution de l'Église. Cette notion de délivrance, de rachat, en l'occurrence, elle regarde le peuple. Là, le peuple d'Israël. Et vous retrouvez cette idée en Luc 2.38, ça c'est la prophétesse Anne, au moment de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Vous avez le même mot, l'utrosis, mais Anne dit, elle chante, elle parle de Jésus à tous ceux qui attendaient le rachat de Jérusalem. Hein, vous savez, Jérusalem qui est cette image, en particulier dans les psaumes, de la communauté des croyants rassemblés, unis, Jérusalem où tout ensemble fait corps, et que l'on va retrouver dans l'Apocalypse comme image de l'Église, rédemption, communauté des croyants, que ce soit Israël, Église. Et on le trouve ce terme dans l'Épître aux Hébreux, qui est là, évidemment, la grande épître qui va nous accompagner tout le temps. Et dès là, on le trouve dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 9-12, c'est la dernière apparition, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament de ce mot de l'utrosis. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Le Christ a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. » Donc, sur cet acte d'holocauste du Christ, l'auteur nous en parle en disant « Le Christ a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non par le sang de bouc et de veau, mais par son propre sang, après avoir acquis un éternel rachat. » Donc là, vous avez l'apparition, rachat, donc c'est toujours le mot l'utrosis, et vous avez l'apparition du thème du sang versé par le Christ, qui est la somme du rachat. Vous voyez ? L'image, la métaphore se développe. Quand vous rachetez, vous versez une somme. Cette somme, c'est le sang du Christ. C'est métaphorique. Donc la rançon, au sens de somme versée, c'est le sang. Alors, je vous le signale parce que, évidemment, le thème du sang, là aussi, revient tout le temps. Et c'est pas par hasard que l'auteur de l'Épître aux Hébreux oppose le sang du Christ au sang de bouc et de veau. Toutes les préfigurations de l'Ancien Testament sont sont dépassés par l'acte du Christ. Donc on retrouve ce que je vous ai dit en commençant, ce dépassement dans le mystère de la rédemption de tout ce qui précède, de toute l'orchestration précédente. Alors, ce mot lutrosis, sis en grec, ça signifie l'acte. C'est le suffixe qui rend compte d'un acte. Ça vient d'un mot, d'un verbe. Lutroumai. Que vous trouvez aussi très souvent. On le trouve dès la Septante. Donc c'est un, vous voyez, pour le grec, la Septante, donc la version grecque de l'Ancien Testament, pour le juif hellénisé qui avait en tête la Septante, le mot lutroumai est prégnant, il veut dire beaucoup de choses. Et c'est pas par hasard qu'on le trouve, le mot lutrosis aussi est dans la Septante. Tous ces mots-là sont des mots vieux dans la conscience d'Israël. Et c'est pour ça qu'on les trouve au début de Saint-Luc. Vous savez que Luc, dans les deux premiers chapitres, utilise un vocabulaire archaïsant ou archaïque. C'est-à-dire que c'est le vocabulaire du peuple d'Israël. Et donc c'est pour ça que tout de suite on trouve lutrosis. Lutroumai, le verbe, on va le trouver, là aussi c'est pas par hasard, au moment des pèlerins d'Emmaüs. Les pèlerins d'Emmaüs, après la résurrection, c'est ces braves juifs, disciples du Christ, qui n'arrivent pas à faire le lien entre leur espérance et l'événement de la croix. Et le Christ va leur apparaître pour faire fusionner ce qu'ils attendaient avec ce qui s'est passé. Et ils utilisent ce vieux mot de lutroumai. Donc c'est dans Luc 24, 21. Les pèlerins disent à Jésus, en parlant de Jésus d'ailleurs, « Nous espérions-nous que c'était lui qui allait racheter Israël ?» Vous le trouvez aussi chez Saint Paul, ce mot. Saint Paul qui est aussi le bon juif qui s'enracine dans l'épître à Tite 2,14. Saint Paul dit « Jésus s'est donné pour nous afin de nous racheter de toute illégalité » ou iniquité, mais mot à mot c'est illégalité « et de purifier un peuple qui lui appartient en propre. » Là, vous avez... Qu'est-ce qu'on dit là? Jésus s'est donné afin de nous racheter de toute illégalité. Donc il y a l'aspect du péché. Le rachat qui se fait par rapport au péché. Et l'angle juridique, entre guillemets, de saint Paul lui fait dire illégalité. Le péché comme illégalité. Vous savez, la manière dont Paul présente la loi comme suscitant le péché parce qu'elle me le fait connaître. Avant que la loi n'apparaisse, je ne sais pas que je suis dans le péché. Une fois que la loi me dit telle et telle chose à ne pas faire et que je l'ai fait, je suis dans le péché. C'est donc une illégalité. Donc on a vu le rachat par cette somme versée qui est le sang, et rachat de quoi? Du péché. On retrouve cela dans la première épître de Pierre, au verset 18 du chapitre 1, 18 et suivant. Pierre dit aux chrétiens, « Vous avez été rachetés de votre vaine conduite, héritée de vos pères. » Votre vaine conduite, c'est l'illégalité de saint Paul, vu sous l'aspect vide. 20. Et cette conduite, elle est héritée de vos pères. Donc ça, c'est bien toujours le regard d'Israël sur Israël, mais avec quelque chose de sous-jacent qui est intéressant. Si cette vaine conduite, elle est héritée, il y a là une allusion sous-jacente au péché originel. Il y a quelque chose dans lequel on communie nos ancêtres et nous. C'est la vaine conduite, c'est-à-dire le péché. Au verset suivant, au verset 19, vous retombez sur l'explicitation de la somme d'argent qui a servi pour ce rachat. La somme versée, dit saint Pierre, c'est le sang, un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, Christ. Donc vous avez l'apparition, vous avez à nouveau le sang, et là, on nous dit c'est le sang de l'agneau. Sans défaut et sans tache, on retrouvera, ça c'est une allusion à l'agneau pascal, l'agneau du sacrifice. Bon, on arrête là parce que c'est un peu aride et on reprend 10 heures.
Sur la rédemption, le 9 mai 1993 à Rimont, par le père Martin, deuxième conférence.
Donc, lutroumaï, le fameux lutroumaï, c'est un verbe qui, donc en grec, signifie, correspondant au mot, hein, payer une rançon, racheter. Donc là, on reste dans l'idée de rachat, qui est première avec redimere en latin aussi. Mais ce verbe, c'est un mode d'un verbe de lutro-o, ça avait différents modes en grec, actif lutro-o, ou moyen lutro-mai. Et lutro-o signifie quoi ? C'est délivré moyennant rançon. Donc premier sens, voyez, là on inverse par rapport au latin. Le premier sens c'est délivré et je délivre moyennant rançon. Alors que redimere, premier sens c'est racheter et rachetant je délivre. Donc voyez, il y a une petite inflexion entre le latin et le grec. En latin, vous insistez d'abord sur le rachat. En grec, si vous prenez étymologiquement, vous insistez sur la délivrance. Et une délivrance qui implique un rachat. Et la manière dont se jouent les deux notions. Ce verbe lui-même, lutro, vient d'un mot qui est très important, qui est lutron. C'est toujours la même racine. Lutron, c'est quoi à l'origine? C'est le moyen de délier. Ça vous rappelle, pour ceux qui ont annonné des déclinaisons de grecques, des conjugaisons de grecques, quelque chose. Quelques-uns qui ont fait. Pas beaucoup. Ça rappelle quoi? Oui, ça rappelle un verbe grec qui est bien connu de tout, quiconque a essayé d'apprendre le grec. Luo, qui veut dire délier. Lutron, c'est l'action, c'est le moyen, pardon, correspondant au verbe, à l'action luo. Luo, c'est le hameau en grec, décliné en grec, ou conjugué, pardon, en grec luo, comme on conjugue en latin hameau.
Et lio veut dire délier. Okay. La racine, elle est là. Je délie quelque chose qui était lié. Alors le mot lutrone apparaît dans les synoptiques. Donc, il va apparaître non plus en son sens étymologique de moyen de délier, mais comme moyen de délivrance. Premièrement, hein, c'est-à-dire comme une rançon, on va utiliser le mot pour quand il s'agit de délivrer des prisonniers de guerre. Donc analogue à ce qu'on disait en latin pour rédimérer. Je verse un lutrone pour délivrer quelqu'un qui est prisonnier. Vous allez avoir aussi comme moyen d'expier. Vous voyez l'idée sous-jacente. Je suis lié par un péché intérieurement et je suis coincé par rapport à Dieu. Et le lutrone me permet de me délier dans cet ordre spirituel et de renouer avec Dieu. Donc vous avez tout de suite un sens, ça c'est au sens grec courant, hein, pas le sens biblique. Mais déjà dans le grec courant, vous avez un sens religieux de lutrone. Et enfin, c'est une compensation. Vous voyez, toutes ces inflexions de sens. Je compense par un lutrone quelque chose. Et donc, ça va prendre aussi le sens de récompense. Toujours dans ce. Vous voyez, il y a un échange. Je donne quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. Ou je verse quelque chose en remerciement de quelque chose d'autre, une action accomplie. Alors, cela prend évidemment plus de sel quand on le voit utilisé par Jésus lui-même. Alors donc, vous l'avez, comme je disais, dans les synoptiques, en Marc 10, 45, et c'est le même texte en parallèle en Matthieu 20, 28. Alors ça, c'est des textes évidemment très importants pour nous, parce que c'est la parole même de Jésus. C'est plus simplement de la glose autour de l'acte de Jésus, glose révélée, mais glose quand même. C'est Jésus lui-même qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, c'est après l'histoire de la requête des fils de Zébédée qui demande d'être bien placés. Donc ça nous concerne. Et Jésus termine en disant... Il a dit, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui parmi vous veut être le premier sera l'esclave de tous. Voilà la phrase. Car le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, Jésus, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà, rançon, c'est le mot lutrone. Alors, sous-jacent, il y a l'Ancien Testament, comme toujours. Et en particulier, ce qu'on verra, si on a le temps, le texte du serviteur souffrant d'Isaïe 53, mais où il n'y a pas le mot lutrone dans la version des Septante, dans la version grecque. Donc ça, c'est Jésus qui utilise là un mot qui correspond donc particulièrement à ce qu'il veut dire. Et il ne reprend pas une phrase telle quelle, comme ça se trouve parfois dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Il aurait voulu reprendre, redupliquer ce qui était dans Isaïe 53, il aurait pris un autre terme. Là, il utilise le mot lutrone. Alors, vous retrouvez là aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure sur comment l'Eucharistie est toujours sous-jacente à la rédemption. Je vous ai dit, cette espèce de jeu antitype entre le mystère de la rédemption et l'Eucharistie. Et là, vous l'avez, parce qu'à la fin de la phrase, Jésus dit « pour beaucoup ». Ce qui est un hébraïsme. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont exclus, mais ça veut dire « pour tous qui sont beaucoup ». Et vous avez la même expression dans les paroles d'institution de l'Eucharistie, ce que l'on dit à la messe quand le prêtre consacre, il dit pour la multitude. Alors vous l'avez, ces paroles d'institution de l'Eucharistie. Vous voyez ce que je fais, hein? Je vous mets en parallèle l'acte rédempteur et le sacrement, le geste sacramentel. Parce que la parole de Dieu nous y invite par des expressions semblables. Donc en Marc 14, 24, Jésus dit: ceci est mon sang, le sang que vous retrouvez, celui de l'alliance, la notion d'alliance que l'on va retrouver, qui est répandu en faveur de beaucoup. Et c'est le même terme, beaucoup, polon en grec. Encore une fois, qui ne veut pas dire qu'il y en a qui sont exclus. Il veut dire que c'est la multitude qui est visée. Donc là, vous avez aussi dans ces paroles de Jésus la mise en parallèle du service. Et du fait de donner en rançon, de donner sa vie, son âme, sa psyché. Le terme utilisé qui est traduit par vie, c'est psyché, l'âme. Et c'est ce fait que Jésus introduise ce don de sa vie en rançon par la notion de service, hein, Marc 10, 45, qui invite à regarder l'origine. En Isaïe 53, qui est le serviteur souffrant, sur lequel on reviendra. Serviteur. Et encore une fois, le vocabulaire de Jésus est nouveau. Vous retrouvez un terme semblable à lutron, anti-lutron, utilisé là par saint Paul dans l'épître à Timothée. Et lutron, anti-lutron veut dire la même chose. Mais vous voyez, c'est anti, comme dans anti-type, veut dire toujours cette confrontation. Vous confrontez quelque chose avec quelque chose d'autre. C'est ça la rançon. La rançon permet de racheter un captif. Donc il y a toujours une notion d'opposition. Saint Paul dit dans la première épître à Timothée, vous savez, c'est après les versets où il explique que Dieu veut sauver tous les hommes et qu'il y a un seul médiateur, le Christ. Et il présente le Christ comme un homme, Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. Là, c'est plus pour beaucoup, mais c'est pour tous. Donc là, c'est, vous voyez, le sens. Pour beaucoup, ça signifie pour tous qui sont beaucoup. Si on veut être un peu exhaustif, il faut aussi citer un autre mot, qui est toujours de cette racine, qui implique donc en grec la première idée qui est délivrance. Délier. C'est le terme apolutrosis. Que vous retrouvez, alors je vous donne juste les références, en Romains 3, 24, Éphésiens 1, 7, et puis aussi dans l'Épître aux Hébreux 9, 15. Donc c'est un terme paulinien, apolutrosis. À une exception, vous le trouvez aussi dans les synoptiques chez saint Luc. La seule occurrence dans les évangiles de Apolutrosis. Apolutrosis qui signifie le rachat d'un captif. C'est toujours la même chose.
Alors ça, c'est Luc 21, c'est les discours eschatologiques. Donc, qui annonce la parousie, le retour du Christ. Et alors ça, c'est intéressant, parce que vous voyez que le terme de rachat est utilisé pour la parousie. Alors, vous voyez, parce que dans mon petit schéma tout à l'heure, où il y avait la croix, là, au milieu, il y avait le temps de l'Église, hein, sans publicité. Et puis ça se termine où le temps de l'Église? À la parousie. L'économie divine commence à la création. C'est là où il commence à y avoir quelque chose qui n'est pas Dieu. Et ça culmine à la parousie, donc au retour du Christ, à la venue du Christ en gloire. Or, la croix, à partir de laquelle commence le temps de l'Église, l'incarnation rédemptrice, et donc rédemptrice, c'est un rachat. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a rachat aussi là. Ça veut dire, il y a rachat successif. Alors, je vous cite 21-28, Luc 21-28. Quand cela commencera à arriver, les grosses catastrophes, redressez-vous, élevez vos têtes, c'est qu'elle est proche. Votre délivrance, ça c'est la traduction de Saint Jean d'Arc, mais le chanoine Osti dit parce que votre rachat approche. Et délivrance, ça supprime un peu le problème. Apôlutre aussi, c'est rachat avant d'être dit délivrance. Comme Luther aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est toujours dans un temps, la plénitude des temps elle est là. Confère Galates 4.4. Comme dit Saint Paul, il n'y a pas d'autre chose à attendre. Tout est donné. La parousie, c'est un mystère d'explicitation, de manifestation. Et, dit l'Écriture, pour permettre aussi à un plus grand nombre de parvenir au salut. Dieu patiente parce que vous êtes têtus. Mais quant à ce qu'il veut vous donner, tout est là. C'est vous l'obstacle, il est en vous. Pourquoi Dieu patiente? Parce que nous sommes aussi un peuple à la nucrède. Donc cette notion de rachat qui est accomplie de manière plénière, elle se retrouve à la parousie, et c'est toujours le même mystère. Mais simplement qui devient définitif pour tous les élus et qui s'explicite pleinement dans la gloire. Vous voyez, c'est là où c'est très intéressant d'être attentif aux mots eux-mêmes. Ça vous évite, ça vous donne des lumières sur, profondément sur ce que Dieu nous révèle, c'est clair. C'est un peu altruisme ce que je vous dis là. Alors, un petit mot juste par rapport au verbe grec qui a donné apolutrosis, qui est apolutroumai. Voilà, pas trop mal. Qui veut dire donc délivrer moyennant rançon, c'est toujours la même idée. Hein. Donc ça c'est le verbe propre qui a donné à polytrosis. Donc avec toujours l'idée de délivrance qui est première, on retrouve ce que j'ai déjà dit. Il y a quelque chose qui dans le verbe sous-jacent qui est apolio, c'est qui signifie délier, délivrer, vous avez l'idée, et ça c'est assez beau, de la délivrance de la femme qui accouche. Vous voyez comment le grec entre en résonance avec cette image biblique que Jésus va reprendre de la femme qui est dans les douleurs et qui va être dans la joie d'avoir mis un homme au monde. Donc ça c'est dans le verbe sous-jacent qui est apolio, qui veut dire délier, délivrer, et au sens de la délivrance d'une femme enceinte aussi, entre autres. Alors ça, vous l'avez dans Jean, évidemment. Cette image, c'est Jean 16, 21. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'affliction dans la joie de ce qu'un homme est né au monde.
Donc là, vous voyez, par le détour de l'étymologie, vous retombez sur cette image liée à la rédemption, à la délivrance de la femme qui enfante. Alors là, vous pouvez faire tous vos développements de théologie mystique sur la femme. La femme liée à la rédemption. Vous voyez, par le biais de l'exégèse, je peux faire des choses intéressantes. La femme qui enfante. Qui est l'image que vous retrouvez dans l'Apocalypse, bien sûr. Au chapitre 12. Donc, ce qu'on a vu, c'est que dans ce premier faisceau de termes liés autour du, à partir du verbe luo qui signifie délier, on voit que le Nouveau Testament présente d'abord l'idée de délivrance. C'est le premier aspect de ce qui va être traduit en latin par redemptio, où on a l'idée de rachat. Mais comme cette délivrance se fait à prix d'argent, c'est la rançon, tout de suite l'idée de rachat s'infiltre. Vous voyez ? Donc rédemption n'est pas un contresens. La Vulgate ne s'est pas trompée. Et la Néo-Vulgate n'a pas corrigé. La Vulgate a aussi traduit par redemptio, redimere, un autre terme. Ne vous inquiétez pas, ce sera plus bref. Elle a traduit de la même manière un terme complètement différent. C'est le terme agorazo, qui vient de agora. L'agora en Grèce, c'est la place publique, le lieu du marché, le lieu des échanges, des affaires. Qu'on trouve dans la Bible hébraïque comme les portes, la même chose, agora. Agorazo, c'est d'abord aller sur cette place. C'est donc venir y faire des affaires, venir y faire son marché, et donc ça signifie faire son marché. Et à terme, acheter. Vous voyez le... Vous l'avez dans l'Apocalypse. Donc c'est intéressant pour nous. Vous l'avez dans l'Apocalypse 5:9. Et au chapitre 14, à deux reprises, versets 3 et 4. Dans 5:9, c'est ce qu'on a déjà lu tout à l'heure. C'est le terme qui est traduit par acheter. C'est le cantique nouveau que je vous ai lu tout à l'heure. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux parce que tu as été égorgé, ça c'est l'agneau, et tu as acheté. Vous voyez ? Le Christ a acheté l'image, c'est quelqu'un qui va au marché. Qui achète pour lui les hommes. Vous l'avez aussi donc au chapitre 14 de l'Apocalypse. Toujours le cantique nouveau. Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards. Ce qui est intéressant, c'est que l'agneau n'est pas signalé là. Qui est signalé au début, mais il chante devant les quatre vivants et les vieillards et devant le trône. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 milliers qui ont été achetés de la terre. C'est toujours le même thème. Mais il n'y a pas, là, ils chantent devant le trône, les vieillards et les vivants, il n'y a pas mention de l'agneau, comme si l'agneau, en achetant, s'incorporait. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette unité de la tête et du corps dans l'Église. Et ceux qui constituent cette Église, c'est ceux qui ont été achetés de la terre. Alors vous voyez l'expression de la terre, qui permet de traduire racheter. Parce que racheter nous, vous voyez, nous donne l'image de on tire quelque chose et on reprend. Et c'est bien ce qui est sous-jacent dans cette expression acheter de la terre. J'ai tiré de la terre quelque chose pour moi. C'est ça ce que fait Jésus. Ça vous rappelle quelque chose? Jean 17. Ils sont plus du monde, je les ai tirés du monde. Ils sont plus dans le monde. Ils sont dans le monde, ils sont plus du monde. Et en grec, c'est un parfait, c'est un participe parfait, c'est un état qui dure. Nous sommes caractérisés comme chrétiens, parce que les 140 000, c'est pas une élite, c'est tous les chrétiens. Nous sommes caractérisés par cet état d'acheter, de racheter. Vous voyez, ce qui fait notre être ontologique de chrétien, c'est qu'on a été racheté. Et ça dure. Il n'y a pas un moment où on n'est plus racheté. D'où la louange, d'où l'action de grâce, d'où cette liturgie éternelle de glorification de l'agneau. Et quand je ne suis pas dans l'action de grâce, c'est que je suis comme chrétien à côté de mes pompes. C'est que je ne vis plus de ce qui me constitue comme chrétien, le fait d'avoir été acheté de la terre. Vous le retrouvez au verset suivant, 14.4. Ceux-là ont été achetés d'entre les hommes en prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Donc, acheter de la terre d'entre les hommes. Le lieu où les chrétiens sont achetés, c'est d'entre l'humanité. C'est l'agora, c'est l'humanité. Et ils sont prémices. Ça, c'est un à signaler aussi. Les prémices, c'est le langage cultuel. Dans les peuples agricoles, on offre les prémices de la moisson ou les premiers-nés du bétail. Donc, c'est un acte cultuel. Qui fait évidemment, voyez-vous, faites le lien avec l'agneau égorgé. Ils sont achetés par l'agneau égorgé comme prémisse pour Dieu. L'agneau égorgé, du côté du sacrifice, et là, le côté de l'offrande, il y a quelque chose qui interfère. On trouve le terme aussi ex agorazo. Qui lui, alors, signifie proprement d'abord acheter, mais aussi racheter. Et ça, c'est acheter. Même si la Vulgate a traduit au moins une fois par redimo. Je ne sais pas très bien pourquoi. Si, on sait, parce que c'est justement à cause des propositions. Et là, c'est d'abord acheter, mais surtout racheter. Vous voyez, le petit préfixe ex introduit l'idée de rachat, non plus simplement d'achat. Et donc la Vulgate, là aussi, a traduit par redimo. Vous l'avez dans l'Épître aux Galates. Ça, c'est Saint Paul. Galates 3, 13 et 4, 5. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, on retombe sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, cet aspect de la loi qui manifeste le péché en nous mettant dans l'illégalité, en devenant pour nous malédiction. Car il est écrit « Maudit soit quiconque est suspendu au gibet ». Donc, rachat de la malédiction de la loi, rachat du péché manifesté par la loi, par l'acte sacrificiel de la croix, où le Christ se fait malédiction. Et puis l'autre, Galates 4.4, on l'a déjà cité, c'est « Lorsque vint la plénitude du temps, Dieu envoya son fils, etc., né d'une femme, né sous la loi, pour racheter, et ça c'est exagorazo, ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. » Donc là,
Saint Paul ajoute l'idée de finalité pour que nous recevions l'adoption. Vous avez dit, alors, dans autres termes que vous trouvez, tout ça pour vous montrer la richesse, c'est un peu inépuisable, hein, vous comprenez bien, de ce thème du rachat dans le Nouveau Testament. Quand vous êtes attentif à l'écriture elle-même, vous avez une espèce de profusion énorme de termes qui marquent un rachat, une acquisition. Alors vous avez le terme lui-même d'acquisition ou d'acquérir, c'est la péripoiesis. Qui vient du verbe correspondant, péripoiumai. Vous l'avez dans le passage superbe des Actes où Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse. Donc l'église d'Éphèse. Tout de suite, on est attentif. Et Paul met en garde contre les méchants, ceux qui vont s'attaquer aux brebis, aux troupeaux. Et il dit aux anciens d'Éphèse, donc prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint, vous a établi épiscope pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez l'expression qui est assez paradoxale. L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et acquis, c'est, ça correspond au verbe sous-jacent, donc qui est péri, que je me trompe pas, ou maï, signifie acquérir. Vous voyez pas ici, c'est l'acquisition. Donc là, c'est Dieu lui-même, c'est plus le Christ qui fait son marché, c'est Dieu lui-même qui acquiert quelque chose par son sang. Tiens, le sang de Dieu, c'est nouveau. Comment vous comprenez ça? Et c'est son propre sang, hein, il insiste. C'est pas par le sang. C'est par le sang, le propre. Son propre sang. Donc ça c'est très intéressant parce que évidemment c'est le sang du Christ qui est le sang de Dieu comme le dit saint Thomas lui-même. Pour ceux qui ont la somme, vous pourrez aller vérifier dans la tertia la question 2 article 1 ad tertium. Vous verrez un joli petit passage où saint Thomas dit « La chair est déifiée parce qu'elle devient la chair du Verbe de Dieu et non pas parce qu'elle devient Dieu. » Donc là, on n'a pas la chair, on a le sang de Dieu, le propre sang de Dieu. Donc vous voyez, c'est très beau parce que j'insiste un peu parce que, évidemment, ça nous, c'est pas un télescopage de la médiation du Christ, cette expression. C'est au contraire une mise en lumière de cette médiation du Christ. Dieu acquiert l'Église par son propre sang dans le Christ, parce que la médiation du Christ est une médiation très particulière. C'est la médiation, comme le dira saint Thomas, d'un instrument conjoint. Vous voyez, saint Thomas oppose l'instrument conjoint qu'est le Christ et les instruments séparés qui sont les sacrements. Pourquoi il est conjoint, ou saint Thomas dira, il est uni à Dieu dans la personne du Verbe. C'est le mystère de l'union hypostatique. Celui qui réalise le salut sur la croix, c'est Dieu, c'est-à-dire que cet homme que je vois, ou que je voyais en tout cas, que quelqu'un pouvait voir, c'était le Verbe de Dieu. Le mystère de l'humanité, unie à Dieu dans la personne du Verbe. Donc c'est ça qui est sous-jacent dans cette expression, évidemment. Qui fait le désespoir des exégètes qui ne comprenaient rien. Enfin, vous trouvez péripoiesis là, dans l'Épître aux Éphésiens. Ce qu'on chante aux vêpres, là, pour le coup. En vue du rachat de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et littéralement, c'est en vue du rachat de l'acquisition. Vous avez toutes les images là qui interfèrent. Le rachat, apolutrosis, acquisition, péripoiesis. Alors ça termine l'hymne aux Éphésiens. Je donne un peu plus. C'est en lui que vous avez aussi, après avoir entendu la parole de vérité, c'est en lui aussi qu'après avoir cru, vous avez été marqué d'un sceau par l'Esprit Saint promis, art de notre héritage, en vue du rachat de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc là, à la louange de sa gloire, à nouveau, une petite échappée sur la finalité de tout. La finalité de cette acquisition, la finalité de cette rédemption, la louange de la gloire, la louange du mystère de l'amour divin, de ce mystère transcendant d'amour divin. Donc on retombe sur ce qu'on voyait ce matin, sur cette louange, tout à l'heure je veux dire, cette louange céleste autour de la rédemption, autour de l'agneau qui est sur le trône, louange donc du mystère de l'amour de Dieu. Bon, ça c'est tout ce qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament, pas tout, mais quelques aperçus sur ce qui tourne sur le rachat, autour du rachat dans le Nouveau Testament. Vous avez en parallèle, il faut mentionner, la notion de délivrance sortie de la racine libre, liberté. Donc plus une idée de délier, mais une idée de liberté. Il y a une délivrance, si vous voulez, délivrance incorpore deux notions qui vient de délier. Bon, ça on l'a vu. Et puis il y a la notion de liberté. Donc il y a tout un ensemble là de termes qui vient de l'hébreu et le teria, qui veut dire liberté. Alors là, une seule chose importante à mentionner, c'est l'aspect que cette libération, avec le verbe correspondant, se prend toujours dans les textes du Nouveau Testament à partir d'un esclavage. Et vous avez différents types d'esclavage. Vous avez un esclavage, vous dites le Nouveau Testament, du péché. Vous pouvez aller voir ça dans Romains 6, 20. Lorsque vous étiez esclave du péché. Évidemment, ça se retrouve dans Jean. Il y a un esclavage de la mort. L'Épître aux Romains dira l'esclavage de la corruption. C'est la même chose. Donc elle est soumise à la création. Et de tout ça, vous êtes libéré par le Christ. Il y a un esclavage du pouvoir des ténèbres dont nous sommes libérés, arrachés, dit le terme. Proprement, c'est un autre terme. Le pouvoir des ténèbres. Bon. Ça, vous l'avez dans Colossiens, on le chante aussi au vêtres. C'est un autre verbe, ruomai, qui signifie d'abord arracher et ensuite libérer. Vous voyez, autre image, vous arrachez. Vous avez cette idée d'une libération par rapport à un esclavage avec un autre verbe grec, mais c'est toujours la même chose, en hébreu 2, 15.
Là, c'est le verbe apalasso. Toujours le... Mais c'est toujours la même idée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que le Christ est venu délivrer ceux que la crainte de la mort livrait toute leur vie à l'esclavage. Donc toujours cette opposition, délivrance, esclavage. Le mot apalasso, là, ça signifie à l'origine mettre à part, écarter, éloigner. Et du coup, ça signifie délivrer. Vous éloignez d'un esclavage et donc vous délivrez. Et toutes les images, quand le père Philippe nous parle des métaphores dans l'écriture, ça vaut le coup de temps en temps de faire la liste. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans cette opposition libération-esclavage, vous avez la lumière sur une confrontation qui est sous-jacente à la rédemption. Et un combat. Et ça, c'est très fort pour les auteurs du Nouveau Testament. Alors, ça, c'est bien mis en lumière par l'Évangile, Luc 11, 21-22. Vous savez, c'est la petite parabole sur l'homme fort qui garde son palais et puis vient un plus fort. L'homme fort, c'est Satan, qui pour nous est fort. Et vient un plus fort, c'est Jésus. Et il y a comme un combat, et Jésus l'emporte et distribue tout ce sur quoi s'appuyait Satan pour établir sur nous son empire. Jésus dit, lorsque le fort... Alors c'est après la controverse où on accuse Jésus de sortir les esprits au nom de Béelzéboul. Donc lorsque le fort, qui est donc Satan, Béelzéboul, bien armé, garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte. Voilà. Ça, c'est cette victoire du Christ. Il lui enlève son armure en laquelle il se confiait et distribue ses dépouilles. Donc, vous voyez cette image de la confrontation entre le Christ et le diable, elle est sous-jacente sous cette opposition libération-esclavage. Le Christ libère d'un esclavage qui est lié au démon. Alors il faudrait évidemment parler, mais là ça, je vous épargne, de tout ce qui concerne le terme lui-même de salut, de sauver. Le verbe grec sotso, bon, mais qui évidemment le verbe qui revient tout le temps dans le Nouveau Testament, il y a presque 200 occurrences dans le Nouveau Testament de ce mot, salut, sauver, sauveur, tous les mots apparentés. Donc si on commençait à faire la liste, on n'aurait pas fini. C'est le mot, évidemment, peut-être principal, et vous savez que vous l'avez comme explication du nom de Jésus en Matthieu 1, 21. L'annonciation à Joseph, l'ange dit, son nom sera Jésus parce qu'il vient sauver, car lui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, ça signifie en hébreu, Yeshua, Dieu sauve. C'est le nom propre de Jésus qui se prend du salut. Alors, ce qui est très intéressant au terme de cette enquête, parce qu'elle est terminée, rassurez-vous, c'est de voir toute l'importance de l'aspect métaphorique. C'est ça que le théologien va regarder. On a vu ensemble que des métaphores. Qu'est-ce que c'est des métaphores ? Ce sont des analogies impropres. C'est-à-dire que pour parler de quelque chose, vous utilisez des expressions imagées, mais qui ne sont pas au niveau du mystère lui-même que vous regardez. Quand vous parlez de rachat, c'est une image, c'est une métaphore pour le mystère que vit le Christ dans sa vie et en croix, qui n'est pas un rachat, c'est évident, il n'a pas des billets, il n'achète rien. Sens matériel. C'est la même chose pour l'esclavage, vous n'avez pas un esclavage matériel. Et la libération de l'esclavage n'est pas un esclavage matériel. C'est exactement la même chose pour le salut. sauvez. Vous sauvez quelqu'un qui est en train de se noyer. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute l'histoire de la théologie sur le thème de la rédemption a consisté à se dégager progressivement du poids de ces métaphores pour essayer de trouver ce qu'on appelle les analogies propres pour le mystère de la rédemption. Quels sont les termes, fatalement, du langage humain qui n'appliquent pas une image fondamentalement inadéquate pour parler de la rédemption? Or, ces images, vous les avez dans les termes de rachat, de délivrance et de salut. Il y a des situations concrètes d'où sont tirés ces mots et qui ne correspondent pas à la situation concrète qu'a vécu le Christ dans son mystère de rachat. Alors, ça c'est très important parce que vous comprenez que si vous ne faites pas attention à l'aspect métaphorique, quand on vous parle de rançon, vous allez dire, mais à qui elle est payée cette rançon? Qui exige la rançon? Et ça, concrètement, les théologiens, les pères de l'Église l'ont fait. Et ça, vous voyez, c'est l'aspect où vous ne prenez pas garde à l'aspect métaphorique. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si c'est réveiller vos ouailles, ça, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire une théologie scientifique, c'est dangereux. Vous ne prenez pas garde à l'aspect de la métaphore, c'est-à-dire qui porte sur un point précis. Le rachat d'une rançon, ça porte sur quoi? Ben, sur l'aspect onéreux. C'est quelque chose d'extraordinairement difficile que le Christ a accompli. D'ailleurs, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Et donc, rachat, ben, quand on est un peu surtout près de ses sous, on sait ce que ça veut dire. C'est difficile. Donc, la métaphore, elle porte en particulier là-dessus. Mais vous comprenez que si vous prenez la métaphore pour une allégorie, c'est-à-dire que si tout ce qui est contenu dans une histoire de rançon versée, alors vous imaginez l'histoire de la maternelle anémie et n'importe quoi, alors vous dites à qui il faut verser, c'est au démon. Alors le démon, il avait des droits sur nous, alors c'est toute la théorie des droits du démon. Il faut verser une rançon au démon pour qu'il enlève ses griffes et lâche l'homme. Ou c'est la version où vous regardez Dieu comme une espèce de tyran qui réclame une rançon pour libérer l'homme. Donc vous voyez, ça c'est le dérapage peut être assez rapide, imaginatif, où vous ne respectez pas l'aspect métaphorique de toutes ces images, que, encore une fois, le Nouveau Testament vous donne à profusion. Alors là, c'est intéressant, et peut-être que Père Philippe nous le montrera, c'est de voir la purification que fait saint Thomas. Saint Thomas, il regarde tout ça. Si vous avez le temps, c'est bien de regarder. Pour ceux qui sont un peu habitués à saint Thomas, c'est dans la tertiaire, la question 48. Et saint Thomas regarde toutes ces différentes images. Il suffit de regarder la table des matières, on se rend bien compte. C'est intéressant parce que ça montre comment saint Thomas, s'inscrivant dans la tradition de l'Église, dépend directement de l'Écriture. Alors la question 48. La passion du Christ a-t-elle produit ses effets par mode de rédemption? Donc ça, c'est tout l'aspect de rachat. La passion du Christ a-t-elle produit ses effets par mode de sacrifice? Voilà une autre métaphore, le sacrifice, qu'on va explorer plus tard. Vous voyez, le sacrifice, ça implique un espèce d'holocauste, d'un animal que vous brûlez sur un foyer. Est-ce que c'est...